Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui consacrée au discours sur le sacerdoce de Grégoire de Nazianze, un des trois grands-pères cappadociens, connu comme Grégoire le théologien dans l'Orient chrétien. Ce discours est en fait une apologie prononcée par Grégoire pour justifier sa fuite aussitôt après son ordination sacerdotale. Pour en parler, nous recevons Philippe Molac, patristicien, responsable d'une nouvelle traduction commentée de cette œuvre de Grégoire de Nazianze, parue en 2018 aux éditions Artege Le Tielleux. Philippe Molac, quelques mots pour commencer sur l'auteur et son époque.
Grégoire est un homme du 4e siècle pleinement, puisqu'il serait né vers 329 et qu'on suppose qu'il est mort en 390. Il est d'une famille aisée, d'agriculteurs extrêmement cossus, de parents âgés déjà. Il fait des études classiques poussées, d'abord à Alexandrie, qu'il quitte pour des raisons encore assez difficiles à comprendre. Puis il arrive à Athènes, où là il reçoit effectivement une éducation de lettres classiques, mais pas uniquement, car son œuvre est ponctuée d'autres renseignements qui montrent un homme pleinement cultivé et complet, comme on le disait à cette époque. Et puis vers 360, il hésite, il voudrait être moine. Néanmoins, les difficultés de l'époque, les hérésies sont nombreuses. Son père est évêque de Nazianze, mais très vieillissant puisqu'il approche de 90 ans. Et son père l'invite à venir lui prêter main forte pour assagir une communauté très divisée, et en particulier les moines très orthodoxes qui ne pardonnent pas Grégoire l'Ancien d'avoir signé une formule compromettante, ou de compromis plutôt, quant à la divinité du fils égale à celle du père. Nous sommes dans cette période lorsque Grégoire arrive effectivement à Nazianze dans les années 362-363 et son ordination, il la juge un peu comme une violation personnelle et c'est pour ça qu'il s'enfuit auprès de son ami Basile, qui est Basile de Césarée, mais qui est encore loin d'être l'homme qu'il va devenir, et ils projettent tous les deux la possibilité de fonder une vie monastique. Ils y travaillent d'ailleurs parce qu'ils édictent des règles monastiques. Mais après, avec la réflexion, un temps difficile à évaluer entre 9 mois, 12 mois, 18 mois, que sais-je, Grégoire revient à Nazianze et c'est là qu'il fait une belle homélie pendant le temps pascal où il vient se justifier de sa fuite devant les chrétiens de Nazianze. C'est l'objet de ce discours qui, dans la classification habituelle, est nommé discours numéro 2, mais pour faciliter la compréhension, j'ai préféré reprendre le titre de discours sur le sacerdoce de Grégoire de Nazianze.
Un moment peut-être pour relever, vous avez parlé de son amitié avec Basile, qui deviendra le grand Basile de Césarée, pour comprendre le contexte dans lequel on est, hein, c'est l'époque qui a tellement compté pour l'histoire de l'Église après, et le nombre de personnalités qui sont un tout petit peu impliquées directement, indirectement, ou qui vont suivre. Hein. D'abord, ils vont à l'école d'Athènes, l'école philosophique encore, passée d'abord par Alexandrie. Puis les autres personnages qui vont suivre, il y a Jean Chrysostome, l'empereur Julien, hein, qui oui, lui aussi a eu, qui est connu comme l'apostat parce qu'il y a eu un retour vers la religion païenne. Il y a un contexte qui est très propice d'abord à la culture des idées chrétiennes à cette époque-là, même si on n'a pas encore précisé les choses, ou qu'on a du mal à recevoir certaines choses qui l'ont été. Et puis évidemment le fait que l'Empire n'est pas encore chrétien, hein. C'est très important.
Oui, nous sommes dans cette époque, vous le soulignez très justement, entre le moment où Constantin et Licinius, alors co-empereurs, donnent la liberté de culte aux chrétiens en 313, et le moment où le 27 novembre 392, l'empereur Théodose fait que le christianisme devient religion d'État. Et là, nous sommes dans une sorte d'entre-deux, et sans doute, la liberté de culte a-t-elle permis aussi l'explosion, plus au-devant de la scène, des différentes positions théologiques de l'époque. Et c'est un véritable magma, interne auquel nous sommes confrontés au IVe siècle, d'ailleurs pour le chercheur pas toujours très évident, parce que souvent caricaturé par des positions qui ont été prises postérieurement. Alors pour revenir à la vérité même des textes et de ce qu'ils disent, quels que soient les auteurs, il faut se départir du vernis qui a été ajouté après par différentes couches historiques. Mais enfin, pour être simple, nous sommes face à deux problèmes majeurs face auxquels Grégoire va discuter et disputer. C'est l'arianisme et les hérétiques qui nient la divinité de l'Esprit-Saint. Donc Grégoire est confronté parce que c'est un homme intelligent, parce que c'est un homme qui a une expérience mystique. Il est confronté à cette nécessité de dire que Jésus est venu révéler un Dieu dialogue, à une trinité, pas quelque chose de monolithique, mais au contraire quelque chose de très vivant, avec lequel je peux engager une histoire, et Grégoire le montre bien, et trois personnes, un seul Dieu, trois personnes, et les recherches personnelles que j'ai faites dernièrement aboutiraient au fait que Grégoire semble être le premier, et dans ce discours, à édicter cette formule qui va faire Florès, un dieu en trois personnes.
Juste une minute encore pour reparler de quelque chose de fondamental. Bon, il y a eu en 325 à Nicée un concile, le premier concile œcuménique dans l'histoire de l'Église, où on prend cette formule de homoousios, c'est-à-dire que le Christ est consubstantiel au Père. Mais cette formule a du mal à passer. Et tout le IVe siècle est ponctué de conciles faits par les empereurs qui cherchent une formule d'union pour essayer de traverser les difficultés des successeurs de Constantin en particulier. Il va falloir attendre le concile de 381, et là Grégoire est impliqué de manière directe, qui va affirmer la divinité de l'Esprit, mais qui réaffirme aussi ce que Nicée avait dit.
Tout à fait, parce qu'il a fallu pratiquement un siècle à travers des synodes qui se contredisaient quelquefois, qui renchérissaient, qui alourdissaient, qui infirmaient. C'est une vie, je dirais, trépidante que celle du IVe siècle théologiquement. Et vous parlez des empereurs. Bon, le grand problème des empereurs à l'époque, c'est de garder sauve l'unité de l'Empire. Un empire qui est t'es la proie des autres peuples avoisinants. Donc, d'un côté, il fallait garder l'unité, donc il n'était pas question que les chrétiens viennent mettre une sorte de pagaille qui pouvait désunir, d'où des formules un peu de compromis. Mais de l'autre, quelques-uns, pas nombreux d'ailleurs, qui travaillent à la vérité du dogme, c'est-à-dire à la vérité du fait que le Fils est entièrement Dieu, de même substance, comme vous le dites, selon la définition qui vient de Nicée. Mais le problème était que ce mot homoousios n'était pas dans la Bible, et que c'était un mot philosophique, et du coup les adversaires de cette vérité qui devient une vérité dogmatique, comme vous le dites au concile de Constantinople I, les adversaires avaient beau jeu de dire « mais vous empruntez un mot qui n'est pas biblique ». Du coup, la joute est aussi sur ce niveau-là. Et on va voir que dans ce discours, Grégoire utilise très souvent des figures et des passages bibliques pour soutenir son itinéraire et sa justification. Finalement, l'argument de dire « homoousios » est un mot philosophique a stricto sensu est vrai. Seulement, ce serait oublié que la plupart des pères dits orthodoxes ont largement puisé dans la Bible pour justifier que le mot homoousios est, s'il n'est pas dans la Bible, profondément enraciné dans la tradition évangélique et la révélation christique.
Merci beaucoup. Donc, on en vient maintenant au discours sur le sacerdoce. Deux mots, pourquoi écrire un discours comme ça? Pourquoi une apologie?
Parce que, après réflexion, pendant ce séjour avec Basile, il a compris que il fallait servir la communion de la communauté de Naziance. Et qu'il fallait aussi servir cette vérité dont nous venons de parler, selon lui, de la filiation divine et du fait que Jésus soit Dieu lui-même comme le Père et l'Esprit-Saint Dieu comme le Père. Donc, pour Grégoire, c'était extrêmement important. Vous voyez, il y avait ces deux combats qui, je crois, le suivent toute sa vie. C'est-à-dire un combat pour la vérité, non pas une vérité qui s'imposerait, mais justement, une vérité qui révélée dans le Christ, c'est qu'il s'est approprié dans son expérience mystique, l'amène à pédagogiquement la donner ou la redonner. Et puis, ce combat pour la communion. Une église divisée n'est pas signe de l'évangile. Et très souvent, au moins les deux lieux dont il est pasteur, Nazianze et puis Constantinople, il travaille fermement autant qu'il peut à la communion. Et Dieu sait que les dissensions étaient terribles à l'époque. Et puisqu'il le dit lui-même dans un poème, il se fait presque lapider, tentative de meurtre, quand il est à Constantinople, mais c'est plus tard, c'est vers les années 380. Là, revenons, comme vous le dites. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a l'impression d'avoir fui cette charge sacerdotale. Et donc, et les Nazianciens sont sans doute assez mécontents. Il veut se justifier devant sa communauté, ou du moins la communauté dont il a la charge avec son père. Et c'est pour ça qu'il fait ce discours justificatif, et qui est une sorte d'apologie un peu. D'ailleurs, le cardinal Newman, plus tard, lorsqu'il écrit sa Apologia pro sua vita, se réfère vraisemblablement à Grégoire, qu'il connaît très bien. Et c'est un petit peu pour cela aussi que je pense que ce discours est une apologie, certainement.
Juste un mot pour rappeler que Grégoire, connu comme Grégoire de Nazianze, en fait, vient de Nazianze. Son père est évêque de Nazianze. Il sert beaucoup à Nazianze, mais il n'est pas évêque de Nazianze. Hein. Il a eu le titre de Sazim, où il a été, ou pratiquement pas, et puis archevêque de Constantinople. Mais l'histoire est retenue de lui, sa présence
à Nazianze. C'est justement, selon Grégoire, alors il y a des études qui modulent un peu, bon, ce qui est normal, mais selon Grégoire lui-même, il n'a pas voulu rester à Sazim pour ne pas faire couler le sang du fait des divisions. Alors, comme on était un peu bloqué, le plan de Basile avait échoué parce que Basile voulait mettre des évêques orthodoxes dans ces lieux-là. Ça ne marche pas avec Grégoire, où d'ailleurs ils se disputent violemment ensemble à ce moment-là. Donc Grégoire part de Sazim et c'est un peu un pis-aller que de l'avoir nommé évêque auxiliaire à Nazianze à ce moment-là.
On va faire une pause pour aller dans l'église. Dans ce temps de carême, on chante dans les églises orthodoxes l'hymne acatiste à la Mère de Dieu. Et c'est un extrait donc de cet office que nous allons entendre par le chœur byzantin de Grèce, sous la direction de Lycurgos Angelopoulos. Et après cet extrait de l'hymne acatiste chanté par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycurgos Angelopoulos, nous revenons à notre entretien avec Philippe Molac au sujet du discours sur le sacerdoce de Grégoire de Nazianze, livre donc paru récemment aux éditions Arthège-Le Tilleul. Philippe Molac, vous avez parlé du fait que Grégoire, même dans un discours sur le sacerdoce, prend des positions dogmatiques très claires et définit quelque chose qui deviendra après, je dirais, le cœur même du dogme chrétien, c'est-à-dire un Dieu aux trois hypostases. Donc on va prendre un extrait de ce discours où il en parle.
Oui, alors donc je vous propose de prendre le numéro 38, parce que l'avantage de ce discours, c'est qu'il est fait de 117 numéros, chaque numéro ayant généralement une idée forte. Alors, numéro 38 reprend justement cette défense de la divinité du Christ, du Fils. Je cite Grégoire. « Il ne faut pas que certains aient un tel amour du Père qu'ils lui retirent ce qui le constitue Père, De qui serait-il alors le Père si le Fils en est séparé par sa nature et ramené au rang de créature, cet autre n'étant pas un Fils? Ou si le Fils se fond ou est absorbé dans le Père, ou ce qui revient au même s'il l'absorbe? Tout comme il ne faut pas aimer le Christ au point de ne pas lui garder le fait d'être Fils. De qui serait-il le Fils s'il ne se rapportait au Père comme à son principe, et s'il n'était pas conservé au Père la dignité de principe, lui étant propre comme Père et géniteur? Dans le premier, en tant que Fils et Verbe, dans le second, en tant que procession et esprit insécable. En tout cela, il est inéluctable de sauvegarder le Dieu unique et de confesser les trois hypostases, chacune selon ce qui lui est propre. Voilà cette expression dont je soulignais tout à l'heure que fort probablement c'est la première fois dans la littérature chrétienne que la question est édictée de manière aussi clairement. Il y a eu toute une recherche et saint Athanase d'Alexandrie avait été proche de l'édicter déjà dans le tome aux Antiochiens, dans la lettre aux Antiochiens qu'il adresse en 361 d'ailleurs, pardon. Mais je crois que le temps de mûrissement de Grégoire dans sa retraite avec Basile lui a permis, étant au courant des discussions et de l'apport de saint Athanase, de clarifier l'édiction de ce mystère de la Trinité.
Donc on voit bien que des choses qui paraissent aujourd'hui tout à fait évidentes, hein, parce qu'on commence, je dirais, par ça, dans un cours de dogmatique, à l'époque, ne le sont pas. Il a fallu le combat de personnalités de cette envergure pour que les choses peu à peu s'introduisent.
Et je pense que nos auditeurs doivent savoir aussi que le combat n'était pas simplement des combats de mots, mais qu'il y avait des combats physiques. Et que dans certains synodes, les évêques du parti A envoyaient leurs moines bastonner les moines des évêques du parti B. Et quelquefois, même certains y laissaient leur peau. Alors, on a du mal à imaginer aujourd'hui, on voit pas au Concile de Vatican II les évêques catholiques se battre comme ça, même s'ils se sont quelquefois affrontés par micros interposés, mais c'est resté à la politesse des micros. À l'époque, il y a de vrais combats physiques, par moines interposés. Et quelquefois, on a du mal à imaginer la violence qui pouvait exister sur cette question cruciale de la divinité du Fils et de la divinité de l'Esprit Saint pour arriver à cette... Je n'ai pas cette définition parce que c'est enfermé et que Grégoire lui-même n'aime pas qu'on mette la main sur Dieu et que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ce mystère de la Trinité est dicté selon une formule qui lui paraît la moins... mauvaise possible, un seul Dieu en trois hypostases.
Et vous avez raison de souligner le côté physique, donc le côté, les conséquences sociales, donc l'intérêt est politique, donc l'intérêt des empereurs.
Oui.
Parce qu'évidemment, c'est une question qui devient hautement politique, les questions religieuses. Alors, on va passer à autre chose, évidemment, les conseils qu'il donne, et puis sa manière de voir le sacerdoce. Personnellement, j'ai été très impressionné par quelque chose qui est évidemment naturel quand on le voit chez lui, mais qui aujourd'hui en plus garde toute son actualité, je dirais. Aujourd'hui, nous vivons une époque où tout va vite, où il faut produire beaucoup, etc. Donc, il donne des conseils concernant, je dirais, la qualité qu'il faut préférer à la quantité. Hein, c'est...
Le fait que Constantin et Licinius ouvrent la liberté de culte aux chrétiens en 313 accélère une tendance qui existait déjà. Il ne faudrait pas croire que tout arrive en 313. Mais accélère une tendance de l'ambition. On ambitionne l'épiscopat. Et tous ceux qui deviennent évêques au IVe siècle, selon Grégoire, Basile et Chrysostome après lui, ne sont pas forcément des hommes très vertueux ou versés d'abord par la mystique, mais plutôt intéressés par les calculs, et quelquefois même les calculs politiques, avec le fait de rendre évêque, et en étant proche des évêchés de Constantinople, on est plus proche de l'empereur, ce qui n'est pas forcément inintéressant, à la preuve, Eusèbe de Nicomédie. Justement, je vais citer ce paragraphe 72 de notre discours pour montrer comment, effectivement, Grégoire incite à la prudence quant au discernement pour les vocations. Je le cite. « Quand cela arrivera-t-il donc ? disent tous ceux qui sont pressés et ne sont pas confiants, ceux qui construisent et détruisent trop brutalement. À quel moment la lampe sera sur le lampadaire? Où est le talent? Car ainsi appelle-t-il ce charisme. Telles sont les questions de ceux qui sont plus attisés par l'affectif que par la piété.
Écoutez, c'est vraiment impressionnant de voir de quelle manière il essaye de donner, enfin il donne des conseils quand même très précis à ceux justement qui...
Ben d'ailleurs, regardez un petit peu plus loin, ça fera plaisir aux gens qui sont plus mûrs en âge. Mieux vaut des cheveux grisonnants doués d'une bonne capacité de jugement qu'une jeunesse sans éducation. Mieux vaut une réflexion mûrie lentement qu'une précipitation irréfléchie. Mieux vaut un règne de courte durée qu'une longue tyrannie, etc.
Voilà. On voit bien que c'est vraiment une question de qualité. Hein. La personne mûre, le conseil, c'est le discernement, etc. Le temps ne nous permet pas de lire beaucoup d'extraits. Bon, juste un mot très court sur un exemple qu'il prend pour la pastorale, qui est saint Paul. Hein.
Oui, il le cite comme... Effectivement, une partie du discours du numéro 53, numéro 56, est un véritable portrait de saint Paul. Et parce que d'ailleurs, Grégoire, je pense, s'immerge dans la figure de Paul pour lui montrer à ses diocésains que lui, Grégoire, est aussi capable que Paul. Mais au-delà de ça, nous avons véritablement un portrait de Paul, où il reprend la plupart des lettres, et en particulier surtout la première et la deuxième aux Corinthiens, pour forger ce portrait de Paul qu'il présente comme le pasteur modèle, celui qui s'est donné pour ceux à qui il est envoyé pour l'Évangile.
Bah écoutez, il ne reste plus qu'à lire la totalité de ce discours que vous nous donnez dans une nouvelle traduction commentée, Philippe Molac. Donc je rappelle ce livre discours sur le sacerdoce de Grégoire de Nazianz, traduction commentée par Philippe Molac aux éditions Artege Le Tilleul. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Nasser Moussaoui. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.